30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le monde aujourd'hui avec Chérubin Dorsil et moi-même Bagassi Courant, direct de Washington. Ravi de vous retrouver à l'écoute de VOA Africa.
Les grands points de l'actualité. En Australie, la police a mis fin à une prise d'otage dans un café de Sydney. Bilan de l'opération, au moins 3 morts.
Burkina Faso, suspension du parti de l'ex-président Blaise Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès.
On attend de voir éventuellement les motifs qui justifient une telle décision qui ressemble à de l'arbitraire dans un état de droit.
Au Sénégal, premier forum sur la paix et la sécurité en Afrique. L'objectif était de mobiliser le continent face aux défis du djihadisme et du développement.
Un rapport du Sénat américain rendu public mardi dernier épingle la CIA. Nous aurons des réactions et bien sûr notre page économique, le sport et la musique. Mais d'abord, le journal.
Au Burkina Faso, le gouvernement de transition a annoncé la suspension du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'ex-président Blaise Compaoré. Monsieur Compaoré, on se le rappelle, a été chassé du pouvoir fin octobre après avoir dirigé le Faso pendant 27 ans. Les nouvelles autorités ont également suspendu un autre parti et une grande association pro-Compaoré. Issu de la fusion en 1996 de 13 formations favorables à l'ancien régime, le CDP a remporté toutes les élections depuis sa création et disposait à lui seul de la majorité absolue à l'Assemblée nationale burkinabé depuis les législatives de 2007. Les dirigeants du CDP n'étaient pas disponibles ce lundi pour des réactions, mais un journaliste proche de l'ancien régime, Issaka Lingani, pense que cette mesure de suspension est arbitraire et contraire à l'esprit de la transition.
Comme nous sommes en démocratie, je pense que c'est tout à fait légal d'avoir des opinions politiques comme tout le monde en a. En tant que journaliste, jamais. D'abord, disons que la mesure a surpris tout le monde. En ce faisant, on attend de voir éventuellement les motifs qui justifient une telle décision qui ressemble à de l'arbitraire dans un état de droit. Et surtout qu'on nous a parlé d'une transition inclusive, c'est-à-dire qui prendra en compte l'ensemble des courants politiques du pays. Et aujourd'hui, décider ainsi d'exclure l'ancienne majorité, et de mon point de vue, c'est conduire le pays vers une division irréversible. C'est proprement de l'arbitraire et je pense que il faut régler ça selon les règles de droit. Tous les pays qui ont décidé d'accompagner le Burkina Faso dans cette phase de transition doivent, comme on dit chez nous ici, ouvrir l'œil pour aider le Burkina à se réconcilier avec lui-même et à conduire vers des élections propres, transparentes, équitables, qui seront acceptées par tout le monde d'ici le mouvement prochain.
Le journaliste burkinabé Issaka Lingani, proche de l'ancien régime de Blaise Compaoré.
La justice ivoirienne se prononcera mercredi sur une querelle interne au parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, fortement divisée entre deux camps qui ont chacun fait appel aux instances judiciaires pour trancher, a appris l'AFP. Auprès du parti, la justice rendra sa décision mercredi à midi, a déclaré Mamadou Sanogo, chargé de communication de Pascal Affi Nguessan, l'actuel patron du Front populaire ivoirien. M. Nguessan est candidat à l'investiture face à Laurent Gbagbo, qui tente de reprendre son parti, bien qu'il soit emprisonné à La Haye par la Cour pénale internationale.
Le premier forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce lundi à Dakar, avec pour objectif d'accroître l'implication des Africains dans leur défense face aux défis qui secouent le continent. Claire Morin-Gibourg.
Plus de 300 participants, dont 5 chefs d'État, prennent part au premier forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Plusieurs conférences et tables rondes ont eu lieu en présence de ministres, d'ONG et d'experts axés notamment autour du défi du djihadisme au Sahel et la menace grandissante de la secte islamiste nigériane Boko Haram. Les présidents Macky Sall, Ibrahim Boubacar Keïta et Idriss Déby étaient présents, ainsi que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui s'est beaucoup impliqué dans l'organisation de ce forum. L'ambition est de créer une culture sécuritaire commune en Afrique. L'impératif sécuritaire doit être considéré par les Africains comme une priorité, a-t-il déclaré dans une interview à l'AFP. Le forum de Dakar a vocation à devenir un rendez-vous annuel, à l'image des conférences sur la sécurité de Munich en Europe, de Manama au Moyen-Orient ou d'Halifax au Canada.
Le parquet national financier en France a ouvert une enquête préliminaire après une plainte de la RCA qui accuse son ancien président, François Bozizé, de s'être constitué un riche patrimoine au préjudice de son pays. C'est ce qu'annonce l'agence France-Presse citant une source judiciaire. La plainte déposée à la mi-novembre vise notamment un ensemble de propriétés immobilières en France appartenant à François Bozizé, à son entourage ou à d'anciens alliés politiques, ainsi que des véhicules de luxe et des avoirs bancaires. Toujours selon l'agence France-Presse, elle rappelle de précédentes affaires dites de bien mal acquis où des juges enquêtent sur les riches patrimoines en France de chefs d'État africains comme Denis Sassou Nguesso du Congo, Teodoro Obiang-Nguema de Guinée équatoriale ou le défunt président gabonais Omar Bongo.
Au Nigeria, les deux principaux syndicats du secteur pétrolier ont lancé une grève illimitée. Idriss Fall nous en parle.
Les cadres et ouvriers du secteur pétrolier ont annoncé hier que la grève va toucher tous les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière. Pour les deux syndicats, c'est une réaction face à l'incapacité du gouvernement à maintenir en bon état les raffineries et à baisser les prix à la pompe pour répercuter la baisse mondiale des cours du pétrole. Ils accusent Abuja de négliger la lutte contre le sabotage des oléoducs et de retarder une nouvelle législation contre la corruption dans le secteur pétrolier. Les syndicats demandent aussi un meilleur entretien des routes en très mauvais état dans le delta du Niger. Ce débrayage a semé la panique à Port-Harcourt où de longues files d'attente se sont formées devant les stations pour se procurer de l'essence. Le Nigeria est le premier producteur d'or noir du continent mais importe l'essentiel de son carburant à cause d'une faible capacité de raffinage.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Australie, fin dans la nuit de lundi à mardi de la prise d'otages dans le Lind Chocolat Café, un établissement du centre-ville de Sydney où un homme armé retenait en otage plusieurs clients et employés. Des médias australiens ont fait état d'au moins 3 blessés et on a confirmé 3 morts, 2 otages et l'agresseur lui-même qui a été identifié comme étant Menharon Muniz. Il se réclamait de l'organisation terroriste État islamique. Précision Jacques Aristide.
Après plus de 16 heures d'angoisse, la police australienne a mis un terme à la prise d'otage dans un déluge de feu. Le preneur d'otage était un Iranien d'une cinquantaine d'années, accusé notamment d'une série d'agressions sexuelles et de complicité de meurtre en lien avec la mort de son ex-épouse. Il devait comparaître lors d'un procès prévu en février 2015. Menharon Muniz avait également été condamné en 2012 pour avoir envoyé des lettres d'injures ou de menaces aux familles de 8 soldats australiens tués en Afghanistan pour protester contre l'engagement de Canberra dans le conflit. Peu après la prise d'otage, l'homme avait fait brandir un drapeau noir portant des inscriptions blanches en arabe. Le réfugié iranien qui s'était intronisé Sheikh exigeait de s'entretenir avec le premier ministre australien Tony Abbott. L'Australie, qui participe à la coalition militaire organisée par les États-Unis contre l'État islamique en Syrie et en Irak, est en état d'alerte élevé. Les autorités craignent des attaques de la part de musulmans australiens de retour des combats au Proche-Orient.
La Belgique était paralysée ce lundi par une grève générale contre l'austérité qualifiée d'historique par les syndicats. Ils reprochent au gouvernement de droite et au patronat leur autisme. Michel Joseph nous en dit plus.
Comme prévu, les transports sont les plus touchés. En raison de l'arrêt de travail des contrôleurs aériens, plus aucun avion n'a décollé ni atterri dans les aéroports depuis dimanche soir. Les trains ont cessé de rouler dimanche soir et aucun Thalys, TGV ou Eurostar pour Londres, transitant par la Belgique, n'est prévu lundi. Même pagaille dans les écoles et les administrations. Les syndicats belges contestent le plan d'austérité décidé par le nouveau gouvernement de Charles Michel, qui entend notamment économiser 11 milliards d'euros en 5 ans. La coalition de Charles Michel prévoit également de porter de 65 à 67 ans l'âge légal de départ à la retraite en 2030. La grogne perdure donc en Europe, comme l'illustre une autre grève générale. C'était vendredi en Italie contre les réformes économiques et sociales du Premier ministre Matteo Renzi.
En Syrie, des combattants du front al-Nusra, un allié d'Al-Qaïda, ainsi que d'autres groupes islamistes, se sont emparés de 2 bases militaires stratégiques dans le nord-ouest du pays. L'information a été communiquée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'ONG basée à Londres, au moins 31 soldats du gouvernement et 12 combattants de l'opposition ont trouvé la mort dans les combats qui ont commencé dimanche. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place maintenant à la Minute Éco, aujourd'hui avec Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Gabi, bonsoir à tous.
Au Gabon, l'ONEP, le syndicat du secteur pétrolier, durcit le ton.
Et on est donc au bord de l'explosion sociale. Avoir de l'essence à Libreville ou à Port-Gentil relève du parcours du combattant, avec de longues files dans les rares stations-service encore ouvertes. Le syndicat du secteur pétrolier a fermé le robinet suite à des revendications corporatistes non satisfaites. Le dernier round des négociations en fin de semaine dernière a échoué. Sur quoi achoppe la discussion? Réponse avec le secrétaire général de l'ONEP, Paul-Aimé Bagafou.
Et en ce qui concerne le point sur l'assurance maladie obligatoire, chaque partie campe sur ses positions. Nous sommes en désaccord total. Nous demandons la suspension et puis ensuite on s'assoit pour redéfinir les contours de l'assurance maladie, donc la réformer pour qu'elle soit à des niveaux acceptables. Ils ne veulent pas en entendre parler, mais donc c'est le statu quo.
La voix de Paul-Aimé Bagafou, il est le secrétaire général de l'ONEP.
Libye, assaut d'islamistes repoussé sur une importante région pétrolière.
Une coalition de milices islamistes a tenté d'attaquer la région pétrolière d'Al-Hilal. Elle comprend les terminaux de Ras Lanouf, de Breka et d'Al-Sedra. Mais les miliciens ont été stoppés net par des raids de l'aviation libyenne. La production de pétrole libyen, dont la vente représente 96% des revenus du pays, a été entravée cette année par plusieurs crises dans les terminaux pétroliers avant de repartir progressivement l'été dernier. Le blocage des principaux sites pétroliers avait fait chuter la production d'hydrocarbures et les revenus de l'État de plus de 80%.
Et cette attaque a eu des conséquences, Jean-Roger, sur les prix du pétrole à New York.
Oui, Gabi, le prix de l'or noir tente de se stabiliser après la chute libre de vendredi. Les spécialistes ont noté une légère remontée des cours du pétrole, soutenue par l'annonce de la fermeture de deux terminaux pétroliers en Libye. Mais vendredi, c'était vraiment la dégringolade. Les cours avaient chuté de plus de 2 dollars, poursuivant une baisse engagée depuis le mois de juin, au cours de laquelle donc le pétrole a perdu près de la moitié de sa valeur.
Et il faut dire aussi qu'il y a l'Algérie où les députés se sont alarmés aujourd'hui de la persistance de la baisse des cours du pétrole dans un pays où l'économie dépend 97% de ses exportations d'hydrocarbures. Merci Jean-Roger. Et nous passons tout de suite à notre page sport. Le débat est relancé autour de la mort d'Albert Ebossé Bagassi.
Oui, ce joueur camerounais mort en marge d'un match de football en Algérie ne serait pas donc décédé suite à un jet de projectile des tribunes. Il aurait été assassiné, c'est ce qu'affirme un médecin camerounais qui a procédé à une autopsie à la demande de la famille. On écoute le docteur Mouné André, il est médecin anatomopathologiste à Douala.
Nous n'avons pas le docteur André, malheureusement. Et parlons du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Bagassi.
Oui, le tirage au sort n'a pas spécialement souri au FC Barcelone, obligé de croiser Manchester City et à Chelsea, opposé au Paris Saint-Germain. Pour les autres favoris, la tâche ne paraît pas insurmontable. Loin de là, le Real Madrid, tenant du titre, a hérité de Schalke 04 et le Bayern Munich sera aussi nettement à son avantage contre le Shakhtar Donetsk. L'Atlético Madrid, vice-champion d'Europe, peut également souffler avec le Bayer Leverkusen. Du côté d'Arsenal, on jouera contre Monaco. La Juventus Turin et le Borussia Dortmund s'offriront un remake de la finale de 97 gagnée par les Allemands.
Et Bagassi, avant de fermer cette page sport, on va parler de basketball. Quelques résultats de la nuit dernière dans la NBA.
Oui, les Golden State Warriors ont souffert, mais ont pu arracher en prolongation sa 16e victoire de suite dimanche 128-122. C'était sur le parquet de la Nouvelle-Orléans. Kobe Bryant a délogé Michael Jordan de la 3e place des meilleurs marqueurs de l'histoire. Bryant, 36 ans, a inscrit 26 points.
Voilà, merci, c'était les sports.
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorcy, les Bagassi Koura, en votre compagnie pour cette édition du 15 décembre, place au dossier du jour.
Rapport inquiétant en Côte d'Ivoire. Un avant la présidentielle, Human Rights Watch affirme que les forces de sécurité sont incapables de sécuriser le nord de la Côte d'Ivoire en cause des multiples attaques sur les habitants et les voyageurs qui transitent dans cette partie du pays. De nombreux combattants qui avaient pris les armes durant la crise post-électorale de 2010 et 2011 n'ont toujours pas déposé leur Kalachnikov. Et Nicolas Pinault a joint le secrétaire exécutif de la Commission des droits de l'homme, René Légré, confirme ces faits très graves.
Ce sont des faits qui relèvent de la réalité. Les mesures qui sont prises par le gouvernement depuis la survenue des premières attaques n'ont pas encore porté les fruits escomptés. Ces personnes en autobus ou bien en véhicule privé sont régulièrement la cible d'attaques de personnes lourdement armées qui dressent des barrages sur les voies, qui dépouillent les passagers quand les conducteurs daignent bien s'arrêter, ou bien qui tirent sur des véhicules en mouvement et qui font régulièrement des morts. Donc il s'agit d'une situation suffisamment grave qui a nécessité il y a quelques moments la mobilisation des forces armées qui ont ratissé toute la région nord. Mais dès que ces forces ont regagné leur base, les attaques ont repris de plus belle.
Est-ce que finalement, ce qui est en cause, ce n'est pas le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion en Côte d'Ivoire?
On peut le penser. Je crois que le dernier rapport de l'autorité qui est à la charge du désarmement a pu établir qu'il restait encore quelques dizaines de milliers de personnes non encore désarmées, encore moins réinsérées. Et donc, il est évident que des Ivoiriens qui, pendant un moment, ont porté de façon indue des armes, continuent de les porter et certainement en usent à des fins que peut-être les procès qui font suite à l'arrestation de ces personnes-là peuvent établir.
Est-ce que cela vous inquiète à un an de la prochaine présidentielle?
Évidemment, nous avons connu une élection qui a été particulièrement meurtrière et donc on est en droit d'attendre que les élections à venir se passent dans des conditions sécuritaires optimales qui puissent préserver des vies. En temps ordinaire, si on se retrouve avec 3000 morts, il est à craindre que, avec la multiplication de ces personnes qui sont en armes et qui ne sont pas désarmées, il est à craindre qu'on en arrive à une situation incontrôlable et qui puisse avoir un impact négatif la sérénité des populations pendant les prochaines élections.
Voilà, c'était René Légré, le secrétaire exécutif de la Commission des droits de l'homme, joint à Abidjan.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum reçoit ce jeudi Kadiatou Diallo, la mère d'Amadou Diallo. Ce jeune homme d'origine ouest-africaine abattu en 1999 par des policiers de New York. 15 ans après, gros plan sur les manifestations qui se succèdent aux États-Unis pour réclamer justice après la mort récente de plusieurs Africains-Américains sous les tirs de policiers. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur VOA Afrique.
Cap sur la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est adressé aujourd'hui au Parlement réuni en congrès. Un discours très attendu au cours duquel il a évalué tous les secteurs de la vie du pays. Il ne s'est cependant pas clairement prononcé sur la révision constitutionnelle. Reportage de Walter Nkoy de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
D'entrée, le président Joseph Kabila a évoqué les progrès des concertations nationales organisées il y a une année. Il retient entre autres comme acquis la consolidation de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Concernant les élections à venir, Joseph Kabila a rappelé qu'elles restent incontournables et s'organiseront comme le prévoient les lois de la République.
Les élections sont dans notre pays devenues incontournables pour l'accès aux plus hautes charges de l'État et pratiquement tous les niveaux. Nous ne pouvons donc pas en faire l'économie, quelles que soient nos difficultés. Toutes les élections prévues par les lois de la République seront donc organisées conformément aux dispositions qui seront prises par l'institution compétente pour ce faire, à savoir la CENI.
Au sujet du débat sur la révision de la Constitution, le président de la République ne s'est pas montré très explicite. Il s'est juste insurgé contre toutes les injonctions des partenaires étrangers.
Aux acteurs politiques congolais, de quelque bord qu'ils soient, l'on peut contester le moment choisi ou les arguments développés. Mais non leur droit de susciter ou d'entretenir le débat sur les questions d'intérêt national. On peut, en revanche, s'interroger sur le bien fondé de l'auto-invitation dans ce débat de personnalités non congolaises, aussi bien intentionnées soient-elles, de nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté. Nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions.
Joseph Kabila s'est par ailleurs félicité des efforts de son gouvernement au plan économique et sanitaire avec l'éradication du virus d'Ebola et a insisté sur la nécessité de réformer le secteur de l'éducation pour un enseignement plus adapté aux besoins de la RDC. Enfin, concernant la présence de la MONUSCO en territoire congolais, le chef de l'État a évoqué la nécessité d'amorcer la réduction des forces de la mission onusienne.
La situation sécuritaire qui, à l'époque, avait justifié le déploiement d'un si grand contingent de forces internationales dans notre pays, a depuis lors fondamentalement changé pour le mieux. Que les risques de sécurité qui exigent aujourd'hui une attention prioritaire sont ceux liés à la présence de ce qui reste de groupes armés étrangers, singulièrement ADF et FDLR. Que la gestion de ce risque exige certes une expertise et un équipement spécialisé pour lesquels le concours des Nations Unies demeure le bienvenu, mais qu'elle ne justifie cependant pas le maintien sur notre sol d'un contingent de 20 000 hommes. L'heure est donc venue d'amorcer la réduction du nombre de casques bleus sur notre territoire.
Kinshasa, Walter Nkouy de Top Congo pour la Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Voilà, grève générale du secteur pétrolier au Nigeria, une grève qui va toucher tous les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière de ce pays. Et pour en savoir plus, Idriss Fall a joint le professeur Asho Akakuru de l'université de Port Harcourt dans la région pétrolière du Nigeria.
Ce matin, sur ma route à l'université, j'ai entendu parler de ce grève. J'ai commencé déjà à voir certains gens dans leur voiture qui voulaient faire le plein parce qu'ils avaient peur qu'ils ne pouvaient pas supporter une pénurie d'essence. Les gens se rappellent que si on commence à retourner à la queue, ça va faire d'énormes problèmes. C'est la raison pour laquelle tout le monde fait hâte pour faire le plein d'essence.
Le Nigeria est le premier producteur, mais importe son essence. Et pourquoi ça?
Oui, le Nigeria, il importe une partie de cette essence. Parce que parfois, nos raffineries ont des problèmes de temps à autre. Mais parfois, les raffineries travaillent à certains pourcentages.
Et est-ce que l'essence est toujours subventionnée au Nigeria?
Oui, ce que le gouvernement fait entendre. Et chaque fois que le gouvernement s'apprête à enlever cette subvention, il y a tous des incidences. Et puis, le gouvernement craint les retombées politiques. Raison pour laquelle on laisse de temps à autre cette histoire de subvention.
Est-ce que la région du Delta où vous vous trouvez profite en fait de la production pétrolière?
La région du Delta commence à profiter depuis Jonathan parce qu'il y a des constructions énormes qui ont lieu. Je crois que le gouvernement actuel répond aux attentes des gens, mais vous savez que l'histoire de Boko Haram est une espèce de distraction qui n'est pas utile et auquel le gouvernement essaie de faire face. Cette histoire de Boko Haram gêne beaucoup le gouvernement et entraîne le gouvernement à dépenser beaucoup d'argent, on passe ici par là, et je crois que c'est quand même quelque chose de très sérieux pour nous. Hein. Et ça gêne le gouvernement parce que le gouvernement veut à tout prix restaurer la paix, l'entente nationale.
Mais le gouvernement n'est pas arrivé aussi à régler la question du Maine, de ces gens dans le sud qui font des kidnappings et détruisent les oléoducs non plus.
Oui, mais il faut quand même pouvoir distinguer entre certaines activités des gens qui sont contre le gouvernement et des activités qui résultent du fait que la situation économique dans certaines couches de notre société n'est pas à l'optimum. Certains gens sont pauvres, c'est normal qu'ils recourent à certaines choses, kidnapping, etc. Mais il y a des gens qui sont plutôt riches, mais qui continuent à se trouver dans cette histoire de kidnapping parce qu'ils veulent s'enrichir à tout prix.
Voilà, le professeur Asho Akakuru de l'université de Port Harcourt dans la région pétrolière du Nigeria.
VOA Afrique. Un rapport du Sénat américain rendu public mardi dernier épingle la CIA. Les services de renseignement américains ont eu recours à la torture pour arracher des informations après les attentats du 11 septembre. Selon ce rapport, les hommes ont été mis dans des prisons secrètes, certains dénudés, certains ont été plongés dans de l'eau glaciale ou empêchés de dormir pendant une semaine. Idriss Fall a recueilli la réaction de l'Iranien Karim Laïdji, président de la FIDH, Fédération internationale des ligues de droits de l'homme.
Nous sommes très contents que finalement le Sénat américain a poursuivi ce que nous avons souhaité depuis des années, des enquêtes au sein de l'administration américaine concernant la torture pratiquée à Abu Ghraib, à Guantanamo, à la prison de Bagram en Afghanistan, constatant que les États-Unis violent et violaient la convention de 10 décembre 84 sur la torture. Vous savez bien que les États-Unis ratifiaient cette convention et malgré ce que nous entendons depuis quelques jours de la part de surtout des responsables politiques sous leur responsabilité, malheureusement cette pratique inhumaine a été infligée aux prisonniers comme M. Dick Cheney et d'autres. Pour répondre à leurs allégations, j'insiste sur la définition de l'article 1 de cette convention. Qui dit tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne au fin d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux sont considérés comme actes de torture.
Le Sénat a fait son enquête, mais quelle sera la suite, les auteurs?
Okay, dans cette convention, la torture est considérée comme un crime, même un crime grave. Vous savez bien, la torture, c'est la barbarie. Et par conséquent, maintenant, il faut qu'il y ait des poursuites. Il faut qu'il y ait des poursuites contre, surtout, les autorités politiques ou militaires, je ne sais pas, de toute façon, qui ont autorisé, parce que hier ou avant-hier, M. Dick Cheney disait que même le président de l'époque, le président Bush, était au courant. Et par conséquent, à partir du moment où les responsables politiques ou militaires d'un pays sont accusés de la torture, ça veut dire accusés des actes criminels, il faut qu'il y ait aussi une suite auprès des autorités judiciaires pour continuer cette enquête et demander des poursuites judiciaires contre les responsables de ces crimes.
Haji, président de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme.
Et comme chaque soir, on va se quitter en musique avec Roger Montou. Roger, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir?
Salut Gabi, salut Bagassi. Sam Smith mène la promotion de son premier album Tambour Battant. Après Restart, c'est maintenant Like I Can qui prend le relais. Ce single pop est vitaminé. Commercialisé sur le sol britannique, cette chanson bénéficie d'un clip tourné à New York. Hein. Dans ce clip de Like I Can, Gabi, on voit Sam Smith jouer au gentleman dans les rues new-yorkaises. Un clip à voir. Écoutons Sam Smith dans Like I Can.
It could be a stranger you gave a second glance. It could be a trophy of a one night stand. It could have your humor, but I don't understand. Cause I'll never love you like I can, can, can.
Voilà Gabi, c'était Sam Smith dans Like I Can.
A chance encounter of circumstance. Maybe he's a mantra.
Avec Sam Smith, nous mettons fin à cette édition. Joselle Morissin a dirigé la mise en onde, assistée de notre ami Aiden Utku à la console, à la présentation.
Bagassi Koura et Chérubin Dorsil. On se retrouve demain.